30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent à Bernard Hinault, le dernier coureur cycliste français vainqueur du Tour de France en 1985. Un grand champion cycliste, digne successeur d'Eddy Merckx. Il est d'abord le troisième coureur à avoir remporté 5 Tours de France, 1978, 1979, 1981, 1982 et 1985, après Jacques Anquetil et Eddy Merckx, et avant Miguel Indurain, mais aussi 3 Tours d'Italie et 2 Tours d'Espagne. Contrairement à Jacques Anquetil, il présente aussi un palmarès impressionnant dans les grandes classiques. Paris-Roubaix, course, qu'il n'aimait pas, Liège-Bastogne-Liège, dite la doyenne, qu'il a gagné 2 fois, la Flèche Wallonne, le Tour de Lombardie, Gann-Wevelgem, l'Amstel Gold Race, le championnat du monde sur route en France à Challanches, le Grand Prix des Nations. Finalement, il est plus simple d'évoquer ses absences. Paris-Nice, Milan-San Remo et le Tour des Flandres, sans doute parce qu'il n'était pas l'homme du début de saison. Bernard Hinault, c'était d'abord un tempérament d'exception, au point de le surnommer le blaireau, animal qui devient agressif si on le provoque. Plusieurs fois dans sa carrière, il a fait montre de cette agressivité pour renverser des circonstances a priori défavorables. Citons ce Liège-Bastogne-Liège de 1980, disputé par un froid terrible qui décima le peloton, mais qu'il gagne à force de courage. 9 minutes d'avance sur le second, 21 coureurs à l'arrivée. Bernard Hinault est né le 14 novembre 1954 à Effignac, dans les Côtes du Nord, devenues Côtes d'Armor. Son père est poseur de rails pour la SNCF, sa mère est femme au foyer et travaille également à la ferme familiale. C'est le deuxième d'une fratrie de 3. Il parcourt une 20aine de kilomètres par jour, quotidiennement, afin de se rendre au collège. Dans la côte de Longueux, longue de 3 kilomètres, il tente de rester collé au sillage des camions. Il pratique également l'athlétisme dans le milieu scolaire. Il va obtenir un CAP d'ajusteur métallurgiste au Collège d'enseignement technique de Saint-Brieuc. Bernard Hinault est entraîné par Robert Leroux, réputé pour sa rigueur. Afin de participer à sa première course chez les cadets en 1971, il rachète le vélo de marque Gitane de son frère grâce à l'argent qu'il gagne le week-end en travaillant dans une station-service. Après 36 victoires chez les amateurs, Hinault devient professionnel en 1975 dans l'équipe Gitane Campagnolo, dirigée par Jean Stablinski. Ses débuts sont convaincants, mais Hinault souhaite quitter sa formation après une vive altercation avec son directeur sportif. Il décide finalement d'y rester avec la nomination de Cyril Guimard à la tête de l'équipe. Bernard Hinault a une fréquence cardiaque de 34 pulsations par minute. Il a des fémurs très longs par rapport à ses tibias. Avec cette caractéristique biomécanique, il présente un quotient supérieur à Merckx et Coppi, ce qui lui procure un grand bras de levier. Durant sa carrière, Hinault roule entre 40 000 et 42 000 km par an. Il préfère la course à l'entraînement. En 1978, à 23 ans, Hinault remporte son premier Tour de France dès sa première participation, comme Fausto Coppi, Hugo Coblet, Jacques Anquetil et Eddy Merckx. En 1979, il récidive. De fait, sa supériorité écrasante dans les contre-la-montre lui permettait de repousser la menace de ses rivaux de l'époque, en particulier Job Zoetemelk, qui ne dut qu'à l'abandon d'Hinault à Pau de gagner son seul tour en 1980. Néanmoins, en 1980, Hinault devient champion du monde à Chambéry en épuisant 1-1 ses rivaux dans la côte de Domancy, le dernier à lui résister est l'Italien Baronchelli. En 1981, Hinault est au départ de Paris-Roubaix, alors qu'il n'apprécie pas du tout cette épreuve, déclarant « Cette course est une hérésie ». Ses principaux adversaires sont le Belge Roger de Vlaminck, quadruple vainqueur, surnommé « Monsieur Paris-Roubaix », et l'Italien Francesco Moser, qui a remporté les trois dernières éditions. Durant la course, Hinault subit trois chutes, dont une provoquée par un chien et deux crevaisons. Mais il se trouve dans le final parmi le groupe de tête en compagnie de Roger de Vlaminck, Francesco Moser, le Néerlandais Nick Wipper et les Belges Marc de Meyer et Guido van Kalster. Malgré plusieurs offensives individuelles, les six coureurs restent groupés et font leur entrée dans le vélodrome de Roubaix, où Kuiper mène le train pour son leader d'équipe de Vlaminck. Hinault se porte en tête du groupe aux 400 mètres, puis lance le sprint de loin et personne ne parvient à le dépasser. Hinault remporte l'enfer du Nord devant De Vlaminck et Moser avec le maillot de champion du monde comme Louison Bobet en 1956 qui le félicite à l'arrivée. En descendant du podium, il répond au journaliste qui lui demande ce qu'il pense de Paris-Roubaix maintenant. Il dit « Je n'ai pas changé d'avis, c'est une course à la con ». En 1981, il remporte son troisième Tour de France, reléguant Van Imp à plus de 14 minutes et Alban qui complète le podium à plus de 17 minutes. Sa puissance éclatait aussi en montagne, où rares étaient les grimpeurs capables de le suivre le jour où il avait décidé de frapper un grand coup. En 1982, l'équipe Renault-Elf-Gitane voit l'arrivée d'une jeune génération de coureurs avec Laurent Fignon, Pascal Jules, Martial Gaillan, Charlie Bérard. Grâce à un agent qui s'occupe désormais de ses intérêts, Bernard Hinault signe un nouveau contrat avec Renault sans passer par Cyril Guimard, les deux hommes ayant de plus en plus de griefs l'un envers l'autre. Hinault a pour objectif de réaliser le doublé Tour d'Italie Tour de France et pour ce faire, il décide de ne pas participer au classique de printemps, suscitant des interrogations dans la presse. En 1982, il réalise donc ce qu'il avait manqué en 1980, le doublé Tour d'Italie Tour de France, comme avant lui Fausto Coppi, 1949-1952, Jacques Anquetil, 1964, et Eddy Merckx, 1970-1972. En 1983, en raison d'une tendinite au genou, il renonce au Tour de France. À la fin de la saison, Hinault décide de se rendre à la régie Renault et impose un choix, soit Cyril Guimard, soit lui, pour l'année suivante. En effet, il ne se parle plus et le coureur se plaint de l'autoritarisme de son directeur sportif. Renault préfère poursuivre sa collaboration avec Guimard. Hinault décide donc de quitter l'équipe alors qu'il lui reste deux années de contrat. En 1984, Bernard Hinault rencontre l'homme d'affaires Bernard Tapie par l'intermédiaire de Jean de Gribaldi, dirigeant d'équipe cycliste de 1964 à 1986. Hinault présente son projet de bâtir une équipe professionnelle selon ses idées à Tapie. Ce dernier était intéressé et s'engage à ses côtés pour un budget de 10 millions de francs avec plusieurs entreprises qu'il contrôle, dont La Vie Claire, qui devient le nom de l'équipe, mais aussi Look, marque de ski, qui se met à fabriquer des pédales. Philippe Crépel, dirigeant de l'équipe La Redoute de 1979 à 1983, devient manager de l'équipe La Vie Claire Terraillon. Et le Suisse Paul Koechli, préparateur physique alors réputé pour ses méthodes modernes, son entraîneur. Il n'y a pas de directeur sportif, car Tapie n'en veut pas. Parmi les 17 coéquipiers accompagnant Hinault, 3 viennent de l'équipe Renault. Hinault participe également avec Look à la création d'une nouvelle pédale avec fixation afin de remplacer les cale-pieds. Le maillot de l'équipe est créé par l'agence Micmac. Il est composé de rectangles jaunes, rouges, blancs, gris et noirs, s'inspirant de la toile composition du peintre abstrait Piet Mondrian, 1872-1944. En 1984, Fignon gagne ainsi son deuxième Tour de France. Hinault termine deuxième à plus de 10 minutes. Mais par son panache, son courage et sa volonté durant la course, il voit grandir sa popularité auprès du public français. En 1985, l'Américain Grant Lemon vient renforcer l'équipe de La Vie Claire. Bernard Hinault apparaît comme le grand favori du Tour 1985, car le tracé lui est favorable avec 160 km de contre-la-montre individuel, exercice où il excelle. De plus, le vainqueur sortant, Laurent Fignon, est absent à cause d'une tendinite. Hinault gagne le Tour 1985. Pourtant, à l'arrivée de l'étape du Tourmalet, Lemon, en colère, se plaint auprès de la presse. « Koechlie m'a dit de ne pas rouler, de ne pas relayer Roche. Je perds le Tour à cause de lui. » Hinault lui promet de l'aider à gagner l'année suivante s'il continue de jouer son rôle de coéquipier. Mais l'orgueil de Hinault lui joua parfois des tours. Ainsi, en 1986, à l'arrivée de Pau, il repousse les principaux favoris à plus de 5 minutes. Sauf l'Espagnol Delgado. Il a voulu remettre le couvert dans l'étape pyrénéenne du lendemain, jugé à super bannière. Mais il s'effondra et laissa le pouvoir à Greg LeMond, qui ne devait plus le lâcher, malgré la pression morale effectuée par lui, par le vindicatif breton. L'image qui est restée de ce Tour 1986 est la ligne d'arrivée de l'Alpe d'Huez, main dans la main, par les deux équipiers, mais néanmoins rivaux. Hinault eut du mal à accepter cet échec. Ce sera son dernier Tour de France. Ensuite, il sera brièvement sélectionneur de l'équipe de France pour les championnats du monde de 1988 à 1993, succédant à Jacques Anquetil. Il sera remplacé par Bernard Thévenet. Il occupera un poste de relations publiques au sein d'Amaury Sport Organisation, tout en poursuivant son activité d'agriculteur jusqu'en 2006. Il est finalement à la France ce que Merckx est à la Belgique, une référence incontournable. Par beaucoup d'aspects, Hinault a été comparé à un autre coureur breton, Jean Robic, vainqueur du Tour de France 1947. Ils sont issus de la province, d'un milieu pauvre, et sont des prodiges. Jean Robic est né en 1921 à Radenac, dans le Morbihan. Il se marie 4 jours avant le départ du Tour 1947 avec une fille bretonne de Montparnasse. Il gagne le Tour 1947 sans jamais avoir porté le maillot jaune en course. En 1980, il meurt d'un accident de voiture, s'étant assoupi sur une route de Seine-et-Marne.
C'était la chronique de Gilles Labouroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.